Alain Jelly est souvent allé aux États-Unis une cinquantaine de fois en échange avec ses élèves. Il a même patrouillé avec des patrouilleurs, des policiers américains. Monsieur Jelly, bonjour.
Et bonjour à vous, Monsieur Patrick.
Ben, écoutez, qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis avec vos... Racontez-nous les circonstances avec vos élèves.
Bon, c'est une longue histoire. C'est un premier contact que j'ai établi avec un policier d'Albanie qui enseignait comme moi à Columbia Green Community College, avec qui on a amorcé une période d'échange. Et à partir de là, j'ai eu l'occasion, moi, de vivre un 10 jours fantastique à Washington. Je suis allé patrouiller avec les plus grosses organisations, DEA, FBI et tout ça, grâce à lui. Et à partir de là, un contact à Miami. Carl Buettner, un de mes bons amis qui était à la formation, donc j'ai vécu plusieurs expériences à Miami. Et après ça, un de nos étudiants de Columbia Green qui a gradué, qui est allé à USM, University of Southern Mississippi, qui est devenu un prof, et on a développé un programme d'échange international. Donc j'ai amené au-delà d'une quarantaine de groupes pendant une vingtaine d'années, dont les 3 dernières années, on est allé au Mississippi pour patrouiller et surtout vivre ce que le Sud vit par rapport à la réalité entre les Blancs et les Noirs.
Qu'est-ce qu'on comprend pas, vu du Québec, dans les relations entre les policiers, la police et les Afro-Américains aux États-Unis?
Vous avez deux éléments que je pense qui sont présents, monsieur. Vous avez les Blancs qui appuient les policiers inconditionnellement en raison du fait que les Blancs sont souvent victimes d'agressions de la part des Noirs. Ils sont beaucoup plus marqués, ces agressions-là, parce qu'on va identifier les gens qui vont les agresser en disant « ce sont des Noirs ». D'ailleurs, vous avez juste à aller visiter les prisons que moi j'ai eu l'occasion de voir pour voir qu'ils sont remplis à 98% de la part de Noirs. Donc, vous avez cette particularité-là. Et si vous allez dans le Sud, pour avoir reçu beaucoup d'étudiants policiers qui sont dans différentes organisations, ils vont vous dire que, quelque part, les Noirs sont traités différemment aux États-Unis. Ils sont devenus, avec le temps, la troisième grande majorité des gens après les Mexicains, les Hispaniques et tout ça. Alors, ils ont un peu perdu leur place. Et ce que vous voyez aujourd'hui...
Juste une seconde. Qui a perdu sa place, selon ce qu'on vous dit?
Les Noirs. La majorité noire a été reléguée au troisième rang. Alors, les Hispaniques, en raison de leur rapport culturel, monétaire, économique, ont fait en sorte qu'ils ont un peu suppléé ça. Et si vous regardez, quand on pose la question pour l'avoir vécu, parce que moi, je suis allé patrouiller maintes et maintes fois à Hattiesburg, Gulfport, tu sais, le Sud, je le connais. Quand les gens vous disent que le racisme n'existe plus, c'est faux. Le KKK existe et je suis allé couvrir des incidents, moi, où les églises ont brûlé, puis on sait que le KKK est encore présent, là.
Est-ce que, dans ce que vous avez vu, là, pensez-vous que... OK, vous avez côtoyé des policiers qui patrouillent dans des quartiers noirs. L'attitude générale du policier face aux Noirs américains, comment vous la décririez?
Moi, je vous dirais que, pour reprendre une expression d'un de mes amis qui était major Thomas Toggle, qui enseigne à Milota, à l'Académie à Pétard, lui dit « on doit entraîner nos policiers comme s'ils allaient à la guerre ». Vous faites face à des situations où les individus sont armés. Donc, les policiers ont peu de choix pour pouvoir entreprendre une forme de communication, si minime soit-elle. C'est qu'on sait que l'individu que vous allez arrêter est souvent armé. Et là, il y a un risque d'un incident qui va éclater. Donc, le policier se doit d'intervenir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. C'est ce qui fait en sorte que, dans la formation, beaucoup d'organisations policières sont laissées à eux-mêmes. On a de la difficulté aussi à recruter de bons candidats et d'apporter, je dirais, une qualité de formation policière qui va avec les conditions qui sont souvent en échange. Vous avez des policiers au Mississippi qui gagnent moins cher que s'ils travaillaient à Walmart. C'est incroyable, mais c'est une réalité. Mais moi, ce que j'ai vu, entre autres, un exemple, à Enhancement Team à Hattiesburg, que j'ai patrouillé avec ces gens-là, ils ont créé des liens avec la communauté noire. Les policiers ont des façons de pouvoir intervenir et de développer des relations de proximité. C'est-à-dire qu'on offre des jetons aux jeunes quand ils font des bonnes actions pour leur permettre de pouvoir acheter des équipements de sport, des équipements de fourniture scolaire. Et c'est ce qui fait qu'on continue à améliorer les qualités. Mais vous savez, les États-Unis sont divisés, blancs et noirs, de la perception que qui règne a le pouvoir.
Oui, mais je pense qu'on peut s'entendre, M. Jelly, que ce n'est pas les noirs qui ont le pouvoir.
Non, tout à fait. Mais ce qui est malheureux, c'est que moi, je connais beaucoup de policiers noirs qui sont exemplaires de par leur façon de faire, tout autant que certains blancs à qui j'ai côtoyé, que j'ai patrouillé, qu'eux autres. Et ce qui est malheureux, c'est que souvent, certaines organisations, pour faire diminuer la criminalité, vont subir des pressions de faire en sorte qu'ils vont outrepasser les droits. Ils vont outrepasser aussi leur façon de faire pour pouvoir faire en sorte de résorber la criminalité. Mais si vous regardez, honnêtement, ils ont perdu la guerre face au trafic de stupéfiants, aux drogues et à tout ce qui se passe. Alors, c'est ce qui fait que souvent, les organisations policières sont confrontées à savoir est-ce qu'on essaie de contrôler et de quelle façon on contrôle. Qui sont les individus en place? J'ai en mémoire, moi, le chef de police de Summerall, qui était le premier chef noir qui a été au Mississippi. Il y avait une proximité avec ces gens-là. Puis quand on allait le voir, on voyait comment les gens étaient respectueux envers lui. Ce qui est malheureux, c'est que autant chez nous, M. Lagacé, rappelez-vous certaines histoires, l'affaire Gossett à Montréal, où ce qu'un policier avait abattu.
Avait tiré dans le dos d'un jeune noir, là, oui. Noir.
C'est ça, il y a beaucoup d'histoires.
Dernière question, M. Jelly. Vous êtes un ancien policier, professeur en technique policière. Y a-t-il une circonstance qui justifie qu'un policier s'agenouille sur le cou d'un suspect qui est étendu sur le ventre et qui est menotté dans le dos?
Que chez nous, monsieur, ça n'existe pas, cette forme de formation-là. Ce n'est pas ce qu'on enseigne. Ce sont des méthodes traditionnelles où ce qu'avant, là, tu sais, on ne respectait pas la façon d'intervenir. C'est ce qui démontre, encore une fois, comment est-ce que d'une organisation à l'autre, on peut utiliser des méthodes qui ne sont pas conformes au protocole de formation.
OK, merci beaucoup, Alain Jelly. Bonne soirée.
Ça m'a fait plaisir, monsieur. Bonne fin de soirée.
Merci. Ancien policier, professeur en technique policière, monsieur Jelly est allé souvent aux États-Unis patrouiller plusieurs collègues là-bas. Donc, nous parlait de la réalité qu'il a perçue aux États-Unis, notamment dans le sud des États. Donc, 18h45.